Une fleur dans un champ d'herbe, par Richard Keller, chapitre 1. Il fait très chaud à Lianceville. Officiellement, l'été fêtera son arrivée dans 2 jours. L'herbe a jauni sous les rayons généreux du soleil. Le bocage normand semble engourdi, comme un village provençal. Il y a 3 sortes de gens que les conditions météo réjouissent. Les touristes, les agriculteurs, et Aurélie. Les visiteurs sont peu nombreux dans la région. Les principaux afflux touristiques se situent en juillet et août. Seul le mont Saint-Michel, situé à 20 kilomètres, attire du monde toute l'année. Le mois de juin est réservé aux puristes, à ceux qui prennent le temps de musarder. Les agriculteurs sont dans les champs. Il y aura abondance cette année. C'est bon pour le bétail. Contrairement à la moitié sud de l'Hexagone, ici, l'eau n'a pas manqué au printemps et la plupart des exploitants vont revendre une partie du fourrage et de l'herbe en silet. Il est près de 14 heures. Aurélie sort par une porte située à l'arrière de la ferme. La cuisine est la seule pièce possédant une porte qui donne sur la pelouse. Elle adore cet endroit. Le coin doit mesurer 15 mètres de long et 20 de profondeur. Une haie épaisse compose un mur de verdure où la sensation d'isolement est prédominante. Elle verrouille lui et tire le volet. Il faut dire qu'à 28 ans, c'est une belle jeune femme, mince, avec une poitrine ferme et un corps musclé, attirant le regard des hommes, et elle le sait. Éric Pallu est sorti quelques mois avec elle. Mais elle ne l'a pas choisi. Très amoureux, il aurait voulu l'épouser. Elle a préféré une autre vie. Maintenant que le volet est tiré, elle se dirige vers un transat disposé au beau milieu de la pelouse. Ses gestes sont gracieux. Sa longue chevelure brune se balance au rythme de ses pas. Elle se baisse pour régler l'inclination du dossier et poser une serviette de toilette d'un blanc immaculé. La belle s'allonge sur le dos, entièrement nue. Sur son corps, nulle trace de maillot. Le bronzage est uniforme. Seul le marron de l'aréole de ses seins se distingue, ainsi que ses poils pubiens, aussi foncés que sa chevelure. Nulle obscénité dans le tableau. Aurélie ne s'exhibe pas. Elle profite du beau temps. Elle savoure la liberté de son corps. Le vieux Louis le Boiteux se rince l'œil derrière les arbustes. Ouvrier agricole à la retraite, il aura 70 ans le jour de la fête à Marie. Un peu simplé, il n'a jamais trouvé de compagne, acceptant de partager sa couche. Comme il dit souvent, les femmes ne m'ont pas usé, moi. Par une petite ouverture dans l'épaisseur hermétique de la haie, il se fait discret. Il veut profiter du spectacle et surtout ne pas être vu pour pouvoir revenir à d'autres moments. Car la belle Aurélie se promène souvent dans le plus simple appareil, l'été, derrière la cuisine. Sûre d'être seule, elle n'a pas de retenue dans ses gestes. Il l'a déjà aperçue faire sa gymnastique sur la pelouse, mais dans cette situation, il part au bout de quelques minutes. Le spectacle le stimule trop. Il ne voudrait pas être découvert, certaines postures étant à la limite du supportable. Lorsqu'il lui arrive de faire ses ongles de pied, toujours dans sa tenue d'Ève, le vieil homme croit rêver. Alors, quand il est seul, il se donne une claque pour vérifier qu'il ne fabule pas. Il se rend à l'évidence. Aurélie ne porte pas de vêtements, et cela semble une attitude normale pour elle. Après quelques minutes, des gouttelettes sont apparues sur le ventre plat de la belle. Elles ont coulé vers son triangle frisé. Elle s'essuie avec une serviette de bain et prend un tube de crème solaire pour en passer sur tout son corps. Louis, excité par ces gestes ressemblant à des caresses, préfère battre en retraite discrètement, terminant son après-midi en solitaire, chez lui, à l'ombre du grand pommier. il a eu sa ration de bonheur. Au loin, un engin agricole passe. Il reconnaît chaque machine. Une vie dans ce milieu, sa marque sonore. Ce qu'il entend, c'est l'ensileuse à ruban de Joseph Palu. Toujours à la pointe du progrès, le Joseph. Un malin celui-là, se dit-il. Louis aime assister aux foires rurales. Ça lui rappelle le bon vieux temps. Joseph Palu l'y avait emmené pour chercher l'ensileuse. Maintenant, les paysans n'ont presque plus rien à faire de leurs mains. Il y a des machines. Autre temps, autre mœurs, n'est-ce pas, Aurélie? Après quelques flirts sans importance, elle s'est mariée. Nombreux étaient les prétendants. L'heureux élu fut Guillaume Léchin. Le cheveu noir comme son épouse, l'homme est taciturne et cause peu. Le couple mène une vie sans histoire. 4 mois après la noce, Benjamin est né. Il a aujourd'hui 7 ans. C'est un enfant plein d'entrain qui a hérité du caractère de sa mère, curieux de connaître et aimant le contact avec les copains et copines. Le mariage d'Aurélie avec le fils Léchin a beaucoup fait jaser dans le village. Les grenouilles de bénitier s'en sont données à cœur joie. Un mariage en blanc avec une mariée qui a un ventre comme un ballon de football, pensez donc. Guillaume était radieux ce jour-là. Aurélie, un brin provocatrice, jubilait de voir ses mégères marmonner entre les pages de leur livre de messe. Les parents de Guillaume appréciaient leur belle-fille. Ils n'avaient qu'un fils, et l'arrivée d'un héritier les comblait. Les jeunes époux apprirent lors de l'échographie du 5e mois de grossesse que la cigogne apporterait un petit garçon dans son panier. Marie-Louise Léchin n'eut pas la joie de voir naître son petit-fils. Une méningite foudroyante l'emporta 3 semaines avant la naissance. Aurélie fut hospitalisée car le risque de contamination de la mère et de l'enfant était envisageable. Par chance, il n'en fut rien. Benjamin vit le jour à terme, un beau bébé, tout brun. Guillaume devint un vrai papa gâteux. De ses grosses mains calleuses, il enveloppait son enfant. Il secondait la jeune maman du mieux qu'il pouvait. Elle allaita son fils pendant près d'une année, aimant beaucoup cette sensation. C'est à partir de la naissance de Benjamin qu'elle prit du plaisir à se mettre nue. Lorsqu'elle allaitait, elle montait dans la chambre et quittait tout vêtement pour donner le sein à son fils. Guillaume n'y trouvait rien à redire. Il comprenait les sensations vécues par son épouse et la jalousait un peu. Henri, le grand-père de Benjamin, ne se remit jamais de la disparition prématurée de son épouse. On le retrouva un beau jour dans un étang qui longeait la route nationale. Nul ne sut ce qui s'était passé. Était-ce une sortie de route due à un instant d'inattention ou bien un plongeon volontaire d'un homme au comble du désespoir? Guillaume subit de plein fouet ce 2e choc. En l'espace de 18 mois, il avait perdu père et mère, et se retrouvait à la tête de l'exploitation familiale. L'amour d'Aurélie et de Benjamin lui donnait l'énergie indispensable à la poursuite de l'activité. Hector, le grand-père de Guillaume, habitait 2 pièces à l'extrémité de la ferme. À chaque décès, il arrêtait l'horloge et ne la remontait plus pendant plusieurs semaines. Au décès de sa belle-fille, il avait perdu un peu la boussole. À la disparition de son fils, son état s'aggrava. Il invectivait quiconque se présentait devant sa porte, à l'exception d'Aurélie, qu'il aimait beaucoup. Il n'y avait plus d'homme à la maison en dehors de Guillaume. Le grand-père ne sortait jamais plus de chez lui. Aurélie, qui se trouvait assez souvent nue dans la maison, Guillaume lui demanda de faire attention au cas où quelqu'un viendrait à l'improviste. Elle lui répondit que le chien ferait suffisamment de bruit pour l'alerter. Pour elle, il n'y avait aucun risque. Il est 16h30. À la ferme familiale, Aurélie est rentrée, préparée le goûter de Benjamin. Un grand bol de lait avec du chocolat, des tartines de pain et du Nutella. Le garçon, gourmand, se précipite toujours sur le pot de pâte à tartiner. « C'est bizarre, se dit-elle, qu'il ne soit pas encore là. Il a dû aller se promener du côté de l'étang. Je ne l'ai pas entendu depuis un bon moment. D'habitude, il ne perd pas de temps. Son chocolat de l'après-midi est si sacré qu'il lui arrive de le préparer lui-même. Elle l'appelle. Point de réponse. Benjamin n'est pas à la ferme. À 7 ans, il galope à travers les champs et les chemins du pays. C'est un gosse qui n'est pas sauvage, et tout le monde l'aime bien au village. Il est sûrement allé voir une copine. Il va souvent voir Virginia, sa camarade anglaise. Il y a aussi Charlène, qui s'amuse avec lui. Elle est myopathe et dégage beaucoup de vitalité, malgré le fait qu'elle soit dans un fauteuil roulant. Aurélie, après s'être habillée d'un vieux jean et d'un t-shirt, sort dans la cour pour appeler à nouveau son rejeton. Le vieux Hector la regarde derrière son carreau. Elle lui demande alors s'il a vu Benjamin. Que nenni, le vieil homme n'a rien aperçu. Après tout, lorsqu'il aura faim, il finira bien par revenir au bercail. Elle s'en retourne donc vers la cuisine. Au passage, Hector frappe au carreau, elle lui tire la langue. Le vieillard aime bien s'amuser un peu avec elle, et ses facéties égayent son quotidien. En maman compréhensive, elle laisse le pot de Nutella sur la table. Elle fera réchauffer le bol quand le gamin se décidera à venir goûter. Un peu inquiète tout de même, elle se demande où peut bien être son garnement. Rêveur, il lui arrive de se poser à un endroit et de ne pas voir passer le temps. Le soir, il raconte des histoires à sa mère. Il possède une imagination débordante, s'invente des personnages et des situations en fonction des lieux et des rencontres qu'il a fait. Sa mère aime beaucoup cet aspect de sa personnalité. Guillaume, quant à lui, aimerait mieux le voir s'intéresser à la vie de la ferme et caresse l'espoir secret de le voir un jour lui succéder. La seule chose qu'affectionne Benjamin dans l'activité de l'exploitation, c'est de se promener en tracteur ou sur une machine dans les champs et les prés. Il a la curiosité dans le sang. Le clocher du village vient de sonner 6 fois. Aurélie a du mal à comprendre l'absence de son fils. Benjamin se fait attendre. À nouveau 6 coups. Il n'y a pas de doute, les cloches viennent confirmer qu'il est 18h. Le pot de Nutella paraît bien triste sur la toile cirée. Le soleil a basculé de l'autre côté de la maison. La cuisine est plus sombre. À la clarté du début d'après-midi succède l'ombre du soir qui s'approche. Elle est inquiète. Jamais son amour ne lui a fait une chose pareille. Elle se ronge les seins. Que se passe-t-il pour qu'il ne vienne pas absorber rapidement son goûter et faire un bisou à sa maman? Elle échafaude 1000 hypothèses, plus noires les unes que les autres. Il y a l'étang. Il ne faudrait pas qu'il ait eu un malaise. Et puis les marées. Mais Guillaume a dit que le niveau des marécages était bas. Enfin, il y a la falaise à 3 kilomètres du village. Elle court à la grange, vérifier si le vélo est encore là. Benjamin a dû partir à pied, car la bicyclette est rangée contre une charrette. L'inquiétude la ronge. Elle ne tient plus en place, ne sachant plus quoi faire. Si seulement Guillaume était là, il saurait, avec un mot, avec un geste, la rassurer et entreprendre de trouver le galopin. Elle se reproche d'avoir pensé à elle en se dorant au soleil une bonne partie de l'après-midi. Elle aurait dû garder un œil sur Benjamin. Après tout, il n'a que 7 ans. Guillaume rentrera tard. Il faut donc agir maintenant. Elle va dans la remise et enfourche le scooter, décidée à sillonner les chemins autour du village en demandant aux villageois s'ils ont vu Benjamin. Le scooter, engin préféré d'Aurélie, date un peu maintenant. C'est un des rares objets qu'elle a conservé de l'époque où elle était jeune fille. Pendant plus de 3 quarts d'heure, elle parcourt les chemins, longe les haies, elle les habitants. Elle finit par rentrer dépitée à la ferme. Vite, elle se dirige vers la cuisine. Le pot de Nutella est toujours à la même place. Elle file voir Victor. Il n'a rien remarqué pendant son absence. Benjamin est introuvable. Elle revient à la cuisine, s'effondre sur une chaise et pleure. Elle voudrait appeler Guillaume sur son portable, mais il est posé là sur le buffet. Son mari n'aime pas beaucoup ces appareils qui vous espionnent à tout moment. Les yeux rougis et les paupières gonflées par les larmes, elle tourne en rond. Sa décision est prise. Elle va alerter tout le village. Ça n'a que trop duré. L'attente est devenue insupportable. Benjamin a un problème, elle doit l'aider. Elle passe à nouveau voir le vieux Hector. Ce qu'elle voit lui glace le sang. Le vieillard est assis sur une chaise posée devant l'horloge. Il secoue la tête de droite à gauche, puis d'avant en arrière. Il a arrêté le balancier. Il procède toujours de cette façon quand la mort frappe. Elle claque la porte et court sur la route qui mène au village. Dans son désarroi, elle n'a même pas réfléchi. Elle aurait pu gagner du temps en reprenant le scooter ou même la voiture. Désemparée, elle court, court encore, la vision d'Hector se balançant sur sa chaise et allant jusqu'à imaginer Benjamin noyé au fond de l'étang ou bien écrasé au pied de la falaise. Bouleversée, déboussolée, elle avance, hagarde sur le matacadam. Une voiture arrive à sa hauteur. Elle n'a pas la présence d'esprit de lui faire signe de stopper. Dans la brume de ses pensées, elle entrevoit le véhicule qui s'éloigne. Le désespoir lui donne des ailes. Elle arrive haletante à l'entrée du village. Elle vient de passer le panneau annonçant Lianceville. L'épouse du maire s'occupe des rosiers dans son jardin. Voyant l'état de la jeune femme, elle subodore un souci grave. « Bonsoir, Aurélie. Que se passe-t-il ? » ? « Benjamin a disparu, Madame Mauduit. » « Depuis quand ? » ?»« Le début de l'après-midi. » »« Il faut le trouver. Il faut le trouver. » Arlette Mauduit se saisit de son téléphone portable pour appeler son mari. Ce dernier, géomètre, est à une quinzaine de kilomètres du village. Il conseille à son épouse de vite alerter les gendarmes, car il y a eu par le passé des affaires d'enlèvement d'enfants, et il ne faudrait pas qu'un pédophile ait jeté son dévolu sur le jeune garçon. Madame Mauduit se débarrasse du tablier qu'elle porte pour traiter les rosiers et demande à Aurélie d'ouvrir le portail pendant qu'elle se met au volant de sa vieille Renault 5. Les deux femmes arrivent à la gendarmerie, se trouvant à l'est du village, à environ 1,5 km du domicile de monsieur le maire. Le gendarme de permanence les accueille et les fait asseoir. Il appelle un collègue et les deux hommes écoutent attentivement Aurélie qui s'exprime entre deux sanglots. La description de la situation n'a pas duré 2 minutes que déjà l'alerte est donnée. « Voilà, Madame Léchat, maintenant je vais vous demander quelques précisions que je transmettrai à mes collègues pour affiner les recherches. »« Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, ramenez-moi Benjamin. »« Oui, pouvez-vous me dire comment était habillé votre fils ?» Il portait un jean raccourci au-dessus du genou, de couleur presque blanc à force d'avoir été javelisé. Et comme autre vêtement, c'est important, vous savez. Un t-shirt bleu de l'équipe de France avec le nom de Zidane dessus. Et les chaussures, Madame Léchat? Des tennis de couleur rouge d'une marque non connue. Il avait aussi une casquette bleue avec le sigle WWF en blanc. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus, mesdames. Entendu. À bientôt, messieurs. Je fais part à mon mari de la situation, dit la femme du maire. Bien sûr, Madame Mauduit. À bientôt. Arlette Mauduit soutient Aurélie jusqu'à la voiture. « Je vous ramène chez vous. Y a-t-il quelqu'un à votre domicile en dehors d'Hector ?»« Non. Guillaume est encore avec Joseph Palu. Ils font de l'ensilage aujourd'hui. Le temps est propice à ce genre de travail. » 2 minutes plus tard, les deux femmes pénètrent dans la cour de la ferme. Hector ne bronche pas derrière le rideau de la fenêtre. Les gendarmes ont installé des barrages sur les routes du bocage. Il s'agit de retrouver l'enfant, au cas où un pervers l'aurait enlevé. Il faut dire que la région a été durement éprouvée à 2 reprises ces dernières années. Il y a eu la disparition d'un jeune garçon du même âge que Benjamin dans une colonie de vacances. Il n'a toujours pas été retrouvé à ce jour. L'assassinat d'une jeune Anglaise a semé la consternation parmi la population. Et voici que ces vieux démons ressurgissent. Il est presque 10 heures du soir et Guillaume n'est toujours pas rentré. Il encile avec Éric Palu, le fils de l'entreprise familiale de travaux agricoles. Joseph Palu, le père, vient d'acheter une machine qui ensache l'herbe dans des ballots hermétiques. C'est un progrès notable dans le travail d'ensilage. Les ballots peuvent être stockés n'importe où, il n'y a plus besoin de locaux pour entreposer l'herbe en attente de consommation. Arlette Mauduit, dans la cuisine de la ferme, tente de discuter avec Aurélie pour lui occuper l'esprit. La jeune femme est liquéfiée, anéantie par la grave situation. C'est comme si elle était au 15e round d'un match de boxe. Elle est toujours là, debout, mais KO. Johan Mauduit, le maire, a rejoint la gendarmerie pour aider à la coordination des recherches. Il suit, minute après minute, l'évolution des recherches. Il pense à la petite Aurélie qu'il connaît depuis longtemps. Benjamin mobilise toutes les énergies disponibles. Chaque grange, chaque anfractuosité est fouillée, mais le garçon semble s'être volatilisé. Aurélie passe par des phases différentes, secouée par des spasmes proche de la crise d'épilepsie. Tous les sentiments se bousculent dans sa tête et dans son corps. Tétanisée par moments, à d'autres, elle tremble comme une feuille. Elle semble avoir épuisé son trop-plein de larmes. Arlette Mauduit la serre affectueusement dans ses bras, la caresse et l'embrasse pour essayer de l'apaiser. Mais seul Benjamin pourrait lui offrir ce réconfort. Le téléphone sonne. Aurélie se précipite. C'est Monsieur Mauduit qui vient aux nouvelles. Peut-être l'enfant serait-il rentré en échappant à la vigilance de tous. Elle repart dans des sanglots. Arlette Mauduit se saisit du combiné et échange quelques mots avec son mari. Ce dernier lui confirme que tout un rayon de 40 kilomètres autour de Lianceville est quadrillé par la maréchaussée. Mais il confie à sa femme qu'il n'est pas très optimiste, car il s'agit, à n'en pas douter, du même personnage qui a sévi ces dernières années. Il doit être bien planqué à l'heure qu'il est. Elle parle peu, pour ne pas affoler davantage Aurélie, répond par oui ou par non à son mari, qui a compris qu'il ne fallait pas prolonger la conversation. Cela ne servirait à rien, sinon à inquiéter encore plus la jeune femme. Elle n'a pas besoin de ça actuellement. Le vieux Hector fait la navette entre la fenêtre et la chaise qu'il a mise devant l'horloge arrêtée. Lui aussi est perturbé par l'étrangeté de la journée. Il a perdu quelques repères et s'en trouve affecté. D'habitude, Aurélie lui apporte de la soupe et vient le saluer avant qu'il ne se couche. Il va au lit dès le coucher du soleil. Il sait que la soupe d'aujourd'hui, il ne la verra pas. C'est surtout l'attitude de la jeune femme qui le tracasse. Inconsciemment, il a compris. Il n'a jamais eu d'affection pour Benjamin, mais l'absence du gamin est un manque. Et ce qui contrarie Aurélie perturbe Hector. Guillaume Léchin est rentré fourbu vers 23 heures. Il a rencontré les gendarmes qui l'ont informé de la gravité du problème. Son petit Benjamin, la prunelle de ses yeux a disparu. Aussitôt le seuil franchi, Il se précipite dans les bras de son épouse. La pauvre tremble de tous ses membres. Elle le serre comme jamais. Il ne cherche pas à se défaire de cette étreinte. C'est celle du désespoir, il en est conscient. S'il n'était aussi fort, il serrerait sa femme encore davantage. Sur son visage, des larmes coulent en silence. Il se reproche d'avoir laissé son téléphone portable à la maison. Il aurait pu la soutenir beaucoup plus tôt. Face à l'adversité, lui, le terrien, se sent impuissant. Il ne sait ce qu'il faut faire et s'en remet à la Providence. Les gendarmes ont dépêché une équipe de plongeurs qui sondent l'étang. Un Zodiac a été mis à l'eau. Trois plongeurs ratissent la pièce d'eau qui mesure environ 300 mètres de long sur 100 de large. Deux hommes sont en plongée avec de puissantes torches pendant qu'un troisième est dans le bateau et éclaire la surface de l'étang. Ils fouillent même dans les roseaux. Au bout d'une heure et demie, chaque trou a été visité. Il n'y a rien dans ce petit lac. Les plongeurs ont hissé le Zodiac sur la berge et mis en position la remorque afin de l'aligner dessus. Les hommes ont quitté leurs costumes aquatiques et revêtu leurs uniformes de gendarmes. Virginia Bolton, une petite fille anglaise, habite la maison voisine de la famille Léchin. Elle a le même âge que Benjamin et s'amuse de temps en temps avec lui. Les deux enfants s'entendent bien. Elle n'a pas vu Benjamin de tout l'après-midi. Ce qui obsède Guillaume, c'est que personne n'a vu le gosse. Pourtant, il n'aurait pas pu passer inaperçu. Quelqu'un l'a forcément croisé, mais qui ? Arlette Mauduit a trouvé la cafetière et le paquet de café. Elle en fait pour eux trois. Virginia Bolton est vite repartie chez elle après être venue dire qu'elle n'avait pas joué avec son copain. Il est près de minuit lorsque Johan Mauduit vient rendre visite aux époux Léchin. Il les informe de la décision des gendarmes de laisser le dispositif en place et de contrôler tous les véhicules. Des chiens sont en renfort sur certains barrages.